Europe Soir Weekend,
Céline Géraud.
Amplifon présente, bien entendre pour mieux comprendre.
Dis mamie.
Oui ma chérie.
C'est possible de s'aimer pour la vie?
Oh, évidemment ma puce, regarde-nous.
Grâce à ses aides auditives Ampli Énergie, une exclusivité Amplifon, Jeanne profite pleinement de toutes les conversations. Leur technologie s'adapte à l'environnement sonore en réduisant les bruits de fond parasites. Résultat, une meilleure compréhension. Pour les découvrir, prenez rendez-vous sur amplifon.fr. Amplifon, votre solution auditive. Dispositif médical CE. Demandez conseil à votre audioprothésiste.
Plongez dans une histoire de la mode. Une exposition qui retrace l'histoire du palais Galliera et de ses collections. 350 pièces sont à découvrir. Vêtements, accessoires, arts graphiques et photographies. Jusqu'au 26 juin 2022, au palais Galliera, musée de la mode de Paris, 16e arrondissement. Info et billetterie sur palaisgalliera.paris.fr en partenariat avec Europe 1.
Chez Aesio Mutuel, nous suivons une autre voie, celle du partage. Celle qui consiste à penser aux autres plutôt qu'à soi. À vous aider, vous et vos proches, à avancer en toute sérénité, même en cas d'accident, de dépendance, d'obsèques ou de décès. Grâce à nos offres prévoyance et nos services d'assistance, et ce, quoi qu'il arrive, c'est aussi ça créer du lien. Aesio Mutuel. Décidons ensemble de vivre mieux.
Informations et conditions en agence ou sur aesio.fr.
Bonjour, c'est moi, le confort. Je suis le matelas moelleux qui vous attend après 4 heures dans les bouchons. La couette toute douce qui vous réconforte. La bonne douche chaude qui revigore après une journée de rando ou de vélo. Bref, je suis le confort. Et vous pouvez me retrouver chez Ibis Budget.
Chez Ibis Budget, le confort est à partir de 45 euros partout en France. Malin, non ?
Prix à partir de 45 euros TTC pour une chambre double standard du 18 avril au 23 juillet 2022 en France. Hors prestation annexe, petit déjeuner, taxe de séjour. Variable selon hôtel et période. Voir conditions et disponibilité sur all.accor.com.
Europe Soir Weekend.
Céline Géraud.
Europe Soir Weekend, épisode 2. On est ensemble jusqu'à 20h pour débattre sur les sujets qui vous font réagir. Avec ce soir dans le studio, Frédéric Dabi, directeur général IFOP, Jeannette Bougrabe, essayiste, Patrick Karam, vice-président LR Région Île-de-France, et Philippe Doucet, porte-parole du PS et surtout membre du Conseil national. Alors dans cette deuxième heure, nous ferons le point sur la situation en Ukraine, à la veille des défilés militaires du 9 mai, prévus à Moscou pour la célébration de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. La menace d'une offensive russe sur la ville de Mariupol est de plus en plus forte. L'Ukraine se prépare au pire. En attendant, Jean-Luc Mélenchon, lui, le leader des Insoumis, vient de lancer officiellement, vous le savez, sa grande union de gauche, la NUP. Mais est-ce qu'un tout sauf Mélenchon est en train de se construire? C'est en tout cas ce que pense Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du PS, qui s'est fendu de quelques punchlines bien gratinées. C'était ce matin chez nos confrères de Radio J.
Moi, je pense que cet accord ne sera pas durable et ne tiendra pas. Et quand Jean-Luc Mélenchon sera confronté à une vague du tout sauf Mélenchon, peu de dirigeants socialistes viendront à son secours. Peu de dirigeants écologistes viendront à son secours.
Vous parlez pendant la campagne législative.
Voilà, la campagne législative.
Le tout sauf Mélenchon, Philippe Doucet, parce que le leader des Insoumis ne s'est pas mis en situation d'être au centre de la gauche, ça ne tiendra pas. Qu'en pensez-vous ?
Oui, moi je partage assez ça, c'est-à-dire que le risque, enfin, il y a chaque situation politique a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage pour Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il joue effectivement troisième tour, participation, mobilisation pour qu'il soit Premier ministre. Et donc, moi, je suis Emmanuel Macron, bah, je dis à tout le monde, je fais un référendum, j'ai gagné la présidentielle sur un référendum anti-Le Pen, je vais gagner l'Islatis sur un référendum anti-Jean-Luc Mélenchon en disant « Est-ce que vous voulez que Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre ?» Et donc, ça va lui permettre de mobiliser pour Emmanuel Macron et ses candidates, et ses candidats, eh bien tous les électeurs de droite, voire d'extrême droite, pour faire barrage à Jean-Luc Mélenchon. Donc, cette dynamique-là de cette gauche plutôt radicale permet, me semble-t-il, cette cristallisation. Donc, on le verra dans les prochaines semaines. Mais ça, c'est avantage et inconvénient de cette situation où Jean-Luc Mélenchon se met très en avant pour porter justement cette logique de Premier ministre.
Mais peut-être
donc,
un peu trop.
La question, vous êtes Emmanuel Macron, allez, on est ici, le comité de campagne d'Emmanuel Macron. On fait la campagne comment face à Jean-Luc Mélenchon? Vous avez envie que Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre? Est-ce que vous avez envie que Premier ministre dans une cohabitation?
Oui, dans une
Est-ce
cohabitation.
Est-ce que les Français ont envie d'une cohabitation? C'est ça le sujet.
C'est pas sûr.
Et donc cette dynamique-là peut être assez redoutable contre Jean-Luc Mélenchon. Alors, il peut faire un très bon score de premier tour, moi je le pense, un nettement moins bon score de second tour.
Mais c'est tout à fait, enfin,
que je trouve, Emmanuel Macron, c'est que c'est un peu contradictoire, parce qu'on l'a vu qu'entre les deux tours, il a fait le président oui. Emmanuel Macron, le oui. candidat, puisqu'il était candidat entre les deux tours, même s'il était encore président en fonction, c'est qu'il a fait comme des appels des pieds, cet électorat-là. Donc c'est vrai que ça paraît, tout ça, il y a une espèce d'incohérence de manière générale. Et ce que je pense, c'est que Jean-Luc Mélenchon n'aura pas cette diabolisation qu'a eu Marine Le Pen au second tour.
Oui, c'est ça.
Que je ne vois pas Libération dire que, attention, le risque pour la démocratie, pour l'état de droit, etc. Donc ce ne sera pas tout à fait le même. On ne va pas rejouer la même partie qu'entre Macron et Marine Le Pen.
Je ne suis pas sûr que les électeurs oui. socialistes qui sont portés, même si ça ne fait que 1,7%, qui oui. sont portés sur Anne Hidalgo, ou les 4% et quelques qui sont portés sur Yannick Jadot, se retrouve obligatoirement dans l'offre assez radicale de Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Il peut faire le pari inverse.
Non, juste pour ce qui peut être intéressant.
C'est le deuxième tour. Ouais.
C'est qu'en fait, il y a quand même beaucoup. Et moi, j'étais très frappée, c'est de voir comment les jeunes se sont positionnés. Et je laisserai la parole à Frédéric Dabi, qui sera plus compétent que moi. C'est-à-dire que quand on a vu des manifestations, même si elles n'ont pas été si nombreuses que ça, de jeunes qui disaient ni Le Pen ni Macron, ils ne se reconnaissaient pas dans tout ça. Et donc, il est fort probable que cette espèce d'arc qui va effectivement de France Insoumise aux écolos représente une forme d'idéalisme où des jeunes pourraient se retrouver.
Frédéric Dabi, il faut pas.
Moi, je pense qu'il ne faut pas oublier le scrutin qui s'offre à nous. Ce sont des élections législatives. Elles ont une dimension nationale, parce qu'elles vont être impactées par l'élection présidentielle. Et la question sur laquelle, pour l'instant, on n'a pas de réponse, c'est est-ce que l'effet de souffle qui a impacté les législatives de 2002, 2007, 2012, 2017, c'est-à-dire la présidentielle impact tellement fort que ces élections n'ont pas d'indépendance, d'autonomie et confirment le scrutin présidentiel, va jouer. Est-ce que cet effet souffle va être relativement ténu? Et il y a une dimension nationale pour ça, mais il y a aussi une dimension locale, avec des députés sortants plus ou moins implantés, des personnalités de gauche qui feront, même si elles ont adhéré, même si elles sont investies par la NUP, ne vont pas mettre en avant très fortement l'image de Jean-Luc Mélenchon, c'est le moins que l'on puisse dire, même si il faut reconnaître, et on a réalisé une enquête cette semaine pour vos confrères de Sud Radio, qui l'image de Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même relativement rétabli. D'un côté, c'est l'homme politique qui inquiète le plus les Français. 55% considèrent qu'il vous inquiète, mais il apparaît proche des préoccupations des Français, il apparaît compétent et à un niveau assez élevé chez les sympathisants de gauche, là où le bât blesse, et c'est en ça que ce coup de com' Élisée, Premier ministre, a une vraie limite. Seuls 36% des Français considèrent qu'il est capable ouais. de gouverner le pays. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est quelle articulation entre la dimension nationale du scrutin législatif très fortement impacté par la présidentielle et une dimension plus locale qui pourrait permettre, par exemple, à beaucoup de députés de droite de s'en sortir parce qu'ils sont bien enracinés.
Alors Jean-Christophe Cambadélis l'affirme, il peut y avoir un bon premier tour, mais il n'y aura pas de réserve pour le deuxième tour. Écoutez-le encore.
Oui,
voilà, écoutez-le encore à propos de Jean-Luc Mélenchon, le roi des sorties. Et on en discute après.
Je suis hostile depuis le premier jour à cet accord pour un certain nombre de raisons. D'abord pour des raisons programmatiques, parce que le programme de Jean-Luc Mélenchon, c'est trois sorties, hein, la sortie de l'Europe, la sortie de l'OTAN et la sortie de l'OMC. Quand on est confronté aux problèmes économiques et sociaux et géopolitiques qui sont les nôtres, on ne sort pas de ces trois institutions. C'est réduire la France à la Corée du Nord, si on sort de l'OMC, qui est le seul pays à peu près qui est sorti de l'OMC. On ne peut pas accepter ça.
OMC, Organisation Mondiale du Commerce, je le rappelle pour nos auditeurs. Votre avis, Patrick Karam, voilà, c'est des convictions après. Hein,
non, mais deux remarques d'abord. Une remarque préalable, c'est qu'il y en a un qui se frotte les mains. Et c'est à l'Élysée qu'il est. Parce qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, personne ne discute plus de sa politique, personne ne parle plus de ses faillites, personne ne parle plus de son bilan sécuritaire, de ses manques.
On attend surtout de savoir avec qui il va gouverner.
Oui, mais personne ne parle
autour
plus.
Du Premier
non, mais ce que je veux
futur.
Dire, c'est qu'il se prépare à faire un grand chelem. Ce que je veux dire, c'est que comme il n'y a pas de contestation de sa politique, il peut dire, ben voilà, j'ai été réélu, soyez cohérent. C'est la logique de la Ve République, donnez-moi une majorité. Mais parce que cette majorité peut l'avoir s'il n'y a pas de contestation. Or là, on s'est focalisé sur des repoussoirs. Et quels sont ces repoussoirs? Mélenchon qui arrive à rassembler toute la gauche, l'extrême gauche rassemble toute la gauche, la gauche radicale, contre la gauche socialiste, bon teint, bon pied, et qui le fait sur quoi ? Sur son propre programme. Il n'a fait aucune concession programmatique. Mmh. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a le choix entre l'extrême-gauche de Mélenchon, le programme d'extrême-gauche de Mélenchon, ou le Rassemblement national. Et face à ça, prenez par exemple les LR, UDI et Nouveau Centre qui vont essayer de mettre des candidats. Leur difficulté, ça va être d'être au deuxième tour. S'ils sont au deuxième tour,
avec un ancrage territorial très fort,
ils pourront cranter sur le rejet d'Emmanuel Macron. Ils pourront rencontrer, quel que soit le candidat qu'ils ont en face d'eux, sur le rejet que peut inspirer cet autre candidat. Mais leur difficulté, ça va être d'être au deuxième tour. Et je crois que, si vous voulez, Emmanuel Macron, dans sa stratégie qui est de ne pas nommer le PM, le Premier ministre, oui, aujourd'hui, il me semble que c'est plus une stratégie qu'un acte subi, parce qu'en réalité, une élection législative, là, le délai est extrêmement rallongé, il faut que ça soit très court pour qu'il puisse le gagner sans trop de coups reçus.
Je pense qu'effectivement, Emmanuel Macron aura cette chambre introuvable, c'est-à-dire qu'il pense qu'il aura quand même une très large majorité, mais ce que je tiens à souligner, c'est que il n'empêche qu'on n'est pas à l'abri de surprises, dans la mesure où moi j'ai quand même été frappée, c'est que dès le lendemain de sa victoire, vous avez des manifestations extrêmement violentes. Mmh. C'est-à-dire qu'en réalité, cette France fracturée, on aurait pu penser que justement le fait d'avoir voté reconduit, c'est que d'une certaine façon, le président sortant, c'était une vision pacifiée des choses. Mais moi j'ai été frappée qu'il n'y a pas de période de grâce.
Il y avait deux tiers des Français qui ne voulaient pas d'Emmanuel Macron. Les sondages avant l'élection présidentielle, enfin, ce qui s'est passé est juste une contradiction avec tous les sondages d'opinion. Les sondages d'opinion montraient que les Français à 70% ne voulaient pas. Et ça, c'est très vite. C'est après, je veux dire, un an ou un an et demi avant le premier tour, vous avez cette image-là.
Oui,
vous avez cette image-là dans l'opinion publique. Oui. On ne veut pas d'Emmanuel Macron. En réalité, il a joué le vote utile. Et la question que pose Cambadélis, parce qu'on a parlé de Cambadélis, c'est qu'il veut, il veut arroser la rose avant que la rose ne se fane. Oui. Et son sujet, c'est une course contre la montre. Parce qu'à mon avis, le Parti socialiste est mort, l'idée socialiste n'est pas morte. Oui. Donc toute la question est de savoir dans quelle mesure ils vont pouvoir redresser un socialisme et qui soit un socialisme républicain, universaliste, et qui reste
Frédéric
Dabi, dans la
en 20 logique
française.
Oui, je voulais répondre en 20 secondes à Patrick. Les sondages qui disaient qu'Emmanuel Macron, il y avait un souhait de réélection qui était faible, c'était un souhait de réélection dans l'absolu. Qu'est-ce que c'est qu'une présidentielle ? C'est un match entre plusieurs candidats et de ce point de vue-là, il l'a emporté largement. N'oublions pas que c'est le président qui a été le plus populaire à la fin de son quinquennat, comparé à Jacques Chirac, à Sarkozy. Et François Hollande, un jugement dans l'absolu, Patrick, n'empêche pas le fait que la présidentielle, c'est un match. Et de ce point de vue-là, il a emporté assez nettement.
Merci Frédéric Dabi. On en reparle, Patrick. Le débat continue, évidemment. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
Europe Soir Weekend.
Céline Géraud.
Allez, on prolonge les débats dans Europe Soir Week-end autour de l'alliance PS-LFI. Le Parti Socialiste rumine méchamment. Du côté des anciens, il y a eu la démission de Bernard Cazeneuve, les critiques acerbes de François Hollande, la fronde des dissidents qui s'organisent autour de Stéphane Le Foll ou de Carole Delga. Et cet après-midi, eh bien, le secrétaire général du PS, Olivier Faure, a poussé un méchant coup de gueule. C'était cet après-midi chez nos confrères d'RTL. Écoutez.
Les Français sont dégoûtés par ces combats qui sont des combats d'arrière-garde avec des gens qui sont toujours là à se remettre sur le devant de la scène pour expliquer qu'ils ne sont pas d'accord. J'étais hier, je peux vous raconter ma journée d'hier si vous voulez. Hier, j'ai commencé ma journée avec le Secours Populaire, avec des gens qui sont là, qui viennent acheter des vêtements à 50 centimes parce qu'ils ne peuvent pas mettre plus pour leurs enfants. Voilà, ça c'est la réalité de la vie quotidienne de millions de Françaises et de Français. Et ceux-là, ils se foutent de savoir ce que pense tel ou tel éléphant. Ce qu'ils veulent savoir, c'est si demain, ils vont enfin avoir la possibilité de pouvoir nourrir leurs enfants, pouvoir les habiller, pouvoir leur donner un avenir, les emmener en vacances. Ça compte pour eux. Le reste, c'est de la blague. Et ça fait trop longtemps qu'on en parle. Ça fait des années qu'on parle que de ça même. Ça fait des années qu'on est de congrès en congrès, on parle de ça. Moi, je ne suis pas là pour un congrès à ciel ouvert. Je suis là pour dire aux Françaises et aux Français, on vous a entendu, on vous a compris, et maintenant, on se bat pour vous. C'est ça que je suis venu dire ce matin à votre micro. Le reste, ça m'est égal.
Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, bien remonté. Les éléphants, c'est une espèce en voie de disparition dans la vraie vie. Mais là, voilà, il y en a ras-le-bol des éléphants, selon Olivier Faure.
Oui, enfin, c'est un peu une clause de cil, parce que si moi je peux me mettre aussi en colère, mais que n'as-tu fait, Olivier, depuis que tu es en responsabilité au PS depuis 2018? Que n'as-tu fait? Pourquoi tu n'as pas travaillé plus? Pourquoi justement on parle encore des éléphants, puisque tu étais censé faire la renaissance du Parti Socialiste? Gère la renaissance, tu l'amènes à 1,7. Donc tu n'as pas fait renaître le Parti Socialiste, tu n'as pas travaillé depuis 2018, tu n'as pas refondé en termes d'organisation le Parti Socialiste, tu n'as pas refondé idéologiquement le Parti Socialiste, parce qu'autrement on n'en serait pas là. On n'en serait pas là, donc tu n'as pas travaillé. Et donc à un moment donné, effectivement, tu permets à des gens peut-être avec lesquels tu es en désaccord et sont de droit le plus strict, bah, de revenir dans le jeu, parce que si tu avais été bon mec, ils ne seraient pas là, ils ne seraient plus là. Or, tu n'as pas été bon, c'est ça la réalité. Voilà. Donc à un moment donné, d'ailleurs, si tu étais conséquent avec toi-même, tu aurais posé ta démission, parce que 1,7% à une élection présidentielle, un responsable politique, il pose sa dème. Il ne l'a pas fait. Voilà, donc à un moment donné, je veux bien qu'il vienne expliquer la vie à Pierre-Paul. Moi aussi, ça ne m'intéresse pas les éléphants, ce n'est pas mon sujet. Mais à un moment donné, tu n'as pas fait le taf. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation où on est le courant social-démocrate, la gauche de gouvernement, la gauche républicaine, on appelle ça comme on veut. Et bien au final, tu as été obligé de passer un accord avec Jean-Luc Mélenchon parce que tu es tellement, tellement, tellement faible, parce que tu as tellement pas travaillé qu'à la fin, tu as ce résultat-là. Donc les leçons... nous expliquer la vie, c'est bien. Mais maintenant, aujourd'hui, le PS, c'est un champ de ruines. Et probablement que le parti, il est mort et qu'il faut remonter autre chose. Et tu es aussi un peu responsable parce que depuis 2018, tu as les clés du camion. Et à un moment donné, quand tu ne conduis pas bien le camion, eh ben, tu passes les clés à d'autres.
Est-ce que je suis devenu mélenchoniste? La réponse est non. Vous souhaitez qu'il démissionne?
Non, mais moi, je pense qu'à un moment donné, tu n'as pas fait le taf. Tu n'as pas fait le travail, autrement on n'en serait pas là. Allez où la refondation? Un exemple, quand on a eu le débat au Conseil national, je lui ai dit, mais maman, l'inventaire de François Hollande, puisqu'on est là-dedans, l'inventaire de François Hollande, tu ne l'as pas fait. Lionel Jospin, quand il fait l'inventaire, ça ne remonte à quelques années, après les deux septennats de François Mitterrand, Lionel Jospin fait l'inventaire de François Mitterrand. Ça n'a pas fait plaisir à tout le monde, à commencer par les proches de François Mitterrand qui en ont voulu à Lionel Jospin. Mais le Jospin, il a fait deux colonnes. La colonne action positive de François Mitterrand, la colonne négative. Il a donné un certain nombre de choses, y compris sur l'histoire personnelle de François Mitterrand. Il est où l'inventaire des années Hollande? On n'a même pas soldé en interne et sur la place publique et auprès des militants, on n'a pas soldé les années Hollande. Et donc on se trimballe ce boulet, on n'a même pas fait la colonne positive, la colonne négative. Quand Deng Xiaoping en Chine, il fait aussi pareil, Mao Zedong, voilà, deux tiers de positif, un tiers de négatif. Et ben, fallait faire le, voilà, fallait faire l'inventaire.
Le modèle d'Ousset, c'est Mao Zedong. Mais alors, voilà, c'est le système communiste chinois.
Non mais
chinois.
Peu importe, c'est la méthode, ouais, c'est la méthode. Et donc cet inventaire-là, il n'a pas fait.
C'est intéressant que ce soit la Chine qui revienne comme méthode.
Termine par rapport à ça, c'est que à la fin, ça permet. Il est en désaccord. Pourquoi il râle comme ça? Parce que finalement, de par son inaction, lui-même, il permet à François Hollande de revenir dans le jeu. C'est ça la réalité.
Frédéric Dabi, il se trompe de colère, selon vous, Olivier Faure?
Non, alors déjà, c'est rare de voir Olivier Faure aussi vif et une...
Oui, c'est pour ça que je voulais sortir ce soir.
Une sorte de scène colère qui me rappelle celle de Ségolène Royal entre les deux tours de l'élection présidentielle.
Et du coup, il me fait mettre en colère aussi.
Sarkozy, et ça provoque la colère du calme et placide Philippe Doucet. Donc, coup double. Non, mais alors, je ne vais pas... Alors, là où je nuance un petit peu ce qu'a dit Philippe, parce que j'y ai un petit peu participé, il y a eu quand même... un grand travail de la Fondation Jean Jaurès en 2018.
Une journée, un discours, pas un vote des militants, pas sur la place publique, autrement,
j'ai
ça
vu
n'a
des
pas
choses
été
qui
purgé.
C'est vrai. J'ai eu des choses qui ont été faites aussi dans différentes fédérations du PS, mais c'est vrai que ces années Hollande auraient dû être peut-être plus soldées parce que pour beaucoup de sympathisants socialistes et de gauche, il y avait, tout n'était pas négatif. Loin de là. C'est la loi travail qui a vraiment été en 2016 le moment couperet avec comme dernier clou sur le cercueil le fameux livre à la rentrée 2016 d'Avelhomme. Maintenant, c'est vrai que le bilan du PS aujourd'hui, dans le sondage dont je parlais qui incarne mieux l'opposition à Emmanuel Macron, seuls 6% des Français citent le Parti socialiste, d'accord. 10% les Républicains. Ce que solde ce scrutin présidentiel, c'est la quasi-disparition nationale des deux grandes forces qui ont gouverné le pays. En 2012, c'est pas si longtemps que ça, l'addition en pourcentage Hollande-Sarkozy faisait 55% au premier tour. Mm-hmm. En 2022, l'addition Hidalgo-Pécresse fait à peine 6,5%. Le PS reste très fort à l'échelle locale, mais attention à un risque de SFIO, c'est-à-dire disparition nationale et baronnie locale. En tout cas, l'accord avec Jean-Luc Mélenchon, on peut dire ce qu'on veut, mais ce que dit Philippe est juste, il se base sur un rapport de force. Comment peut-on négocier quand on a sa tête dans la mâchoire du tigre, si je puis dire, quand on a fait 0% quand on a fait dans aucune circonscription plus de 5%. Ouais.
Alors, les investitures, on va en parler de la répartition. Le PS a décroché 69 candidatures. Europe Écologie des Verts, 100.
70, déjà, ouais, on n'a pas, ouais, beaucoup, nous 60, en
ouais,
pas.
Ouais, 70, pardon. 70, 100, le PC, 50. Ouais, ouais, c'est pour ça. Et la France Insoumise, 326. Qu'est-ce que vous pensez des déclarations d'Olivier Faure de faire un haro sur ces éléphants, ces anciens? Il faut passer à autre chose. Balle neuve.
Non, je pense que depuis quelques années, il y a une forme de déshérence intellectuelle de la part et une déconnexion, en réalité, du Parti socialiste sur ça. Ce que dit Philippe Doucet a tout à fait raison. C'est un problème. Il aurait dû démissionner. C'est-à-dire, c'est pas.
Il le fera plus, je pense. Mais il aurait dû le faire avant.
Oui, mais du coup, de toute façon, là, il y a le run des législatives et ensuite reste à voir ce qui va se passer après. C'est le après qui reste, qui est sans doute intéressant, et de savoir comment on va se reconstruire. Mais on se souvient évidemment de Terra Nova et de l'idée qu'il fallait reconcentrer uniquement sur les classes moyennes, et ce qui a été d'une certaine manière une des trahisons du Parti socialiste, c'est-à-dire abandonner les classes populaires dans le discours ou dans les propositions qui devaient être faites aux électeurs. Donc je pense qu'il y a un problème de réflexion d'ensemble. Et c'est d'autant plus important que quand on a 8 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, quand vous avez 5 millions de personnes qui sont obligées d'aller 3 fois par semaine dans des banques alimentaires, c'est un problème. Voilà. Donc, on ne peut pas être une puissance mondiale et accepter ce déclassement de manière permanente. On peut parler de l'école, c'est-à-dire que des grands sujets ont été abandonnés par les partis de gauche. Quand on voit le niveau général, en réalité, en mathématiques, c'est même plus de décrochage en mathématiques. Oui. Donc, les sujets classiques...
Les mathématiques qui vont revenir, vous avez vu au programme...
Oui, mais alors c'est assez
surprenant. Ouais,
c'est un sujet.
Démotivés,
oui, c'est donc, un sujet. On en redébattra une autre fois.
Les grands sujets sur l'école, sur la question de la fonction publique, sur la question des agents publics, de l'organisation territoriale, tous ces sujets-là ont été quelque part abandonnés. Oui. Et je dirais même un autre, la parité. Voilà.
Mais il y a tellement la tambouille électorale occupe tellement le terrain qu'on n'en parle même plus du fond, on est plus sur la forme. Patrick Karam, sur la colère d'Olivier Faure qui veut passer à autre chose. Clairement.
Alors, bon, il aurait dû se souvenir qu'un éléphant, ça trompe énormément. Vous vous souvenez de ce film?
Ah, bien sûr, évidemment.
Vous vous souvenez de ce film d'Étienne qui est heureux en mariage et qui est obsédé par une femme en robe rouge. Oui. Eh bien voilà, eh bien, vous avez une partie du Parti Socialiste qui a cédé aux avances de cette femme en robe rouge, Mélenchon, et puis il y a une autre partie qui joue les résistants. En réalité, Sfor n'était pas tout seul. Son échec que nous explique Doucet, est-ce que Doucet lui-même n'était pas responsable aussi de cet échec, puisqu'il faisait partie de ses compagnons de route? Mais moi, j'ai toujours du mal à considérer que vous êtes dans un système où un homme seul décide de tout.
Selon vous, il doit démissionner.
Dans ce cas, c'est tout le Parti Socialiste et tous les cadres du Parti Socialiste
qui doivent démissionner
et qui doivent laisser la place à une nouvelle génération. Parce que la vérité, c'est que son échec est l'échec de l'ensemble du Parti Socialiste. Et ce que je dis pour le Parti Socialiste est valable aussi pour d'autres partis. Mais moi, la question que je pose, c'est quel fort quoi? Est-ce que c'est celui qui, en pleine élection présidentielle, vouait en géomonie l'ennemi suprême? C'est Mélenchon. Il fallait écouter fort. C'était le plus violent contradicteur de Mélenchon ou celui qui aujourd'hui le défend morticus. On voit bien que cette tambouille électorale, cette soupe électorale est assez malsaine. Parce que pour manger dans la gamelle, on oublie tous les principes. Et moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'il y a deux gauches. Il y a deux gauches irréconciliables. Oui, on pourrait parler d'un certain nombre de projets de société. Oui, on pourrait parler d'un certain nombre de sujets fondamentaux. Mais il y en a un qui, pour moi, divise absolument la gauche. Ce sont ceux qui restent dans la logique universaliste, ceux qui croient encore à la France universelle, des droits, des devoirs, ceux qui ne tombent pas dans le wokisme, ceux qui n'ont pas cédé à la mode de l'ethnicisme.
C'est plutôt le PS.
Et de l'autre côté, vous avez ceux qui, aujourd'hui, c'est la fondation, effectivement, que vous avez citée tout à l'heure, qui a dit qu'il fallait essayer d'aller Terra Nova, qu'il fallait aller chercher de nouveaux électeurs ailleurs. Et ça, c'est un véritable problème. Parce que la France, aujourd'hui, est en train d'être trahie par la gauche. Et je ne reconnais pas les valeurs de la gauche. Et c'est un homme qui guadeloupéen pour lequel la gauche a joué un rôle important.
Frédéric Dabi, IFOP, est-ce qu'on a une idée du pourcentage de militants socialistes qui sont favorables justement à ce renouveau?
Les militants, il y a eu quand même un vote au Bureau national qui a quand même validé assez nettement, Philippe. J'ai plus de 100 voix.
C'était oui, sans les partisans, c'était 100, ou les, quand je dis les militants, 168. C'est juste les...
Maintenant, la question qui se pose, mais on va, comme je disais, on va le voir le 12 juin, ce sont des électeurs de gauche. Vont-ils soutenir, par exemple, un électeur socialiste dans une circonscription perdue par le PS en 2017 ou 8 fois sur 10, compte tenu de l'effacement du PS, hein, qui va être absent dans 500 circonscriptions, va avoir à la place d'un candidat socialiste, un candidat France insoumise ou parfois un écologiste. Va-t-il aller voter, oui ou non? Va-t-il voter pour ce candidat NUP? Va-t-il faire un vote Macron, voire un vote révolutionnaire? Parce qu'il y a cette dimension locale où il y a des députés de droite, par exemple, enracinés. N'oublions pas que la droite qui a perdu tous ses députés ou presque une partie importante en 2017, les 100 qui ont gagné, ont déjà affronté une tempête véritable et sont très bien enracinés. Donc, on verra sur le terrain comment les choses se passeront. Il peut aussi y avoir, parce que dans l'imaginaire du peuple de gauche, la magie de l'union, de l'alliance, de la gauche unie peut aussi faire des miracles et augurer une bonne surprise à cette alliance.
Et on suivra évidemment ce feuilleton.
C'est un concept divin, ouais. Ça. C'est Dieu. C'est les marqués, ne croient pas en miracle.
Mitterrand, j'y crois. Dieu, je vous rappelle.
Oui, mais Mitterrand était à part. Mitterrand était obsédé par l'au-delà.
On reviendra évidemment et on suivra ce feuilleton à rebondissement, évidemment, les législatives dans Europe Soir Weekend. Allez, on se retrouve dans quelques instants. On va revenir évidemment sur ce qui se passe en Ukraine. 74e jour de guerre. À tout de suite.
Europe Soir Weekend.
Céline Géraud.
Allez, dernière partie, Europe Soir Weekend. On va parler évidemment du conflit en Ukraine, 74e jour de guerre. Alors demain à Moscou, la Russie va célébrer à sa manière la victoire des alliés face à l'Allemagne nazie. Il faut le rappeler, contrairement justement à ses alliés européens, la Russie célèbre la fin de la Seconde Guerre mondiale le 9 mai et non le 8, et ce en raison du décalage horaire. La reddition de l'Allemagne a été signée à 23h01 à Berlin le 8 mai 45. Et donc à 1h01 le matin du 9 mai à Moscou. Et cette journée sera marquée par une démonstration de force, un défilé militaire avec 11 000 soldats sur la place Rouge. Un discours aussi très attendu de Vladimir Poutine qui va sans doute annoncer une avancée stratégique sur le front en Ukraine ou que la victoire est proche. Bonsoir Nicolas Tonnef.
Bonsoir à toutes et à tous.
Vous êtes reporter à Europe 1, vous avez couvert le conflit pendant plusieurs semaines. On sent que la menace s'accentue à quelques heures de ce 9 mai, qui est un jour extrêmement important pour les Russes.
Oui, parce que c'est un peu le dernier jour positif en fait, de la Russie, de l'URSS aussi. Il n'y a pas eu de victoire depuis, il y a eu des désagrégations, il y a eu des pertes. Et donc c'est un peu le jour qui réunit tous les Russes, tous ceux qu'on appelle les Russes maintenant autour d'une victoire. Et c'est un jour qui est, dont joue extrêmement le pouvoir russe aussi pour maintenir son peuple derrière lui.
C'est-à-dire que vous pensez justement que cette journée va être un moment, un événement pour Vladimir Poutine? Il a une tribune
Alors c'est toujours un événement en fait dans le pays, déjà naturellement, parce que comme pour nous le 14 juillet, eh bien, c'est une victoire, mais spécialement à Moscou, parce qu'en fait Poutine a réussi à faire croire ces dernières années que tout ce qui n'était pas avec lui était nazi, en gros, si on peut résumer d'une manière un peu simple les choses. Donc à partir du moment où vous ne pensez pas comme le pouvoir russe, vous ne pensez pas comme Vladimir Poutine, vous êtes un ennemi assimilable potentiellement au national-socialisme, ce qui permet assez aisément en fait, de réunir les Russes derrière soi.
Avec cette menace qui s'agrandit chaque jour un peu plus, on l'a vu à Mariupol, hein, ces résistants qui survivent dans cette aciérie. Et en même temps, à Kiev, dans la capitale, on a la sensation que voilà, ça s'est réouvert un peu, les gens circulent dans les rues. Vous qui avez été justement à Kiev, vous avez vu qu'il y avait moins de tension.
Oui, ça s'est totalement réouvert, mais vous savez, l'Ukraine est immense. Hein, donc Mariupol est à plus de 800 km. De Kiev. Kiev elle-même, en fait, quand elle était bombardée, c'est une ville qui fait 800 km², donc vous étiez assez aisément à 10-15 km de l'endroit où les missiles tombaient. Donc effectivement, les gens se sont assez vite rendus compte qu'il était possible de vivre à Kiev. D'ailleurs, j'ai reçu il y a quelques minutes un SMS d'une famille que j'avais croisée à Jytomyr, en fait, à la phase aller, qui fuyait avec son petit garçon. Qui a passé donc quasiment 2 mois ensuite à Lviv dans l'Ouest et qui vient de rentrer à Kiev, alors que c'était des gens franchement qui avaient très peur en fait de la situation.
Et est-ce que selon vous, Vladimir Poutine pourrait profiter justement de cette journée de demain, donc le 9 mai, dont on vient de parler, pour marquer les esprits encore un peu plus, tenter d'intimider, de pousser fort, puisqu'on le sait, hein, voilà, la Russie veut gagner, il va annoncer une victoire quelque part stratégique ou imminente?
Alors honnêtement, j'en sais absolument rien. De toute façon, il y a quelque chose de beaucoup plus simple pour Vladimir Poutine que pour nos hommes politiques à nous, c'est que en fait, la vérité qui sera donnée aux Russes est la sienne, celle que eux fabriquent. Donc, s'il a envie de dire qu'il y a une grande victoire, qu'on a réussi, etc., c'est ce qu'il dira, c'est ce qui passera sur toutes les antennes et c'est ce que les Russes sont invités à croire et plus probablement en grande majorité et croiront, étant donné la puissance de la propagande et de ce que les Russes avalent. Comme fausse nouvelle depuis plus de 20 ans.
Merci Nicolas Tonev, Jeannette Bougrab.
Non, la question c'est de savoir si est-ce qu'il va faire appel aux conscrits en fait. Parce que le réservoir en termes de soldats en réalité n'est pas si important que ça, parce qu'il a projeté 80%, c'est ça, de ses troupes.
Alors c'est pas 80% des troupes, hein, mais globalement effectivement vous avez raison, c'est qu'il a besoin de déclarer la guerre juridiquement pour pouvoir battre le rappel de tous les conscrits. Après, honnêtement, ce qu'il va faire, ce qu'il ne va pas faire, c'est tellement compliqué. Nous, on a tendance à dire qu'il y a trois scénarios pour demain. Ouais. En réalité, pour avoir assisté à des briefings, y compris à l'école de guerre ici, quand nous, on envisage trois scénarios, les militaires, on envisage des centaines. Donc, on est très, très loin de savoir ce qui va se passer exactement.
Merci Nicolas Tonev pour cet éclairage. Alors, je prolonge en vous disant que, en dépit de la pénurie de munitions et nourriture, les combattants ukrainiens résistent toujours dans les sous-sols de cette usine à Azovstal, à Mariupol. C'est une ville qui est presque entièrement sous contrôle russe. Il n'y a plus que cette aciérie qui symbolise l'ultime poche de résistance. Et dans ce dernier bastion, ça semble assez surréaliste. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Alors que l'armée russe continue à pilonner cette usine, sous les bombes, des combattants ont pu donner des nouvelles en organisant une conférence de presse improvisée à 30 mètres de profondeur avec une connexion Internet qui a donc échappé au dispositif de brouillage russe. Deux combattants ukrainiens ont échangé avec 150 journalistes du monde entier qui étaient connectés. Je vous propose d'écouter Ilya Samolenko, officier du renseignement ukrainien qui est retranché dans ses sous-sols.
Oui, nous, tous les militaires de la garnison de Mariupol, nous avons été témoins des crimes de guerre commis par la Russie, par l'armée russe. Nous en sommes les témoins. Capituler n'est pas une option car notre vie n'intéresse pas la Russie. Nous laisser en vie ne leur importe pas.
Capituler n'est pas une option. Jeannette Bougrab, ces résistants ukrainiens font preuve d'une force mentale face à une cruauté et une agression terrible.
C'est le trait particulier des guerres asymétriques, c'est-à-dire quand vous êtes le petit poussé qui est agressé, généralement, vous avez des ressorts intérieurs qui font que vous avez une capacité de résistance incroyable. Souvenez-vous de la guerre du Vietnam, l'armée américaine, regardez l'Afghanistan, les Russes, c'était l'Union soviétique, se sont cassés les dents. Donc c'est pour ça que c'est assez... on a oublié ça, mais ça fait partie de ces guerres asymétriques et voilà. Mais je regardais un petit peu, ce qui est assez surprenant, c'est de voir à quel point la piètre performance de l'armée russe, parce que ils sont touchés.
Ils reculent sur le terrain. À
oui,
certains
alors
endroits, et en même temps, ils ont fait de Mariupol une affaire personnelle. Ils veulent absolument prendre cette
décision. Je suis d'accord, mais regardez, aujourd'hui, la femme du président Biden est en Ukraine. U2, Bono est en train de chanter dans les métros à Kiev. Oui. Il y a des choses qui sont quand même surréalistes, en fait. Vous imaginez, en temps de guerre, en fait, vous êtes en sous-sol à 30 mètres, vous donnez une conférence de presse, et c'est le bataillon Azov.
Oui. C'est ça, le bataillon Azov.
Le fameux bataillon qui fait tant polémique.
Profite de l'aide de l'Occident.
Ce que j'aimerais, et c'est pour ça qu'on en discutait en aparté, mais il y a eu l'interview il y a 3 jours à l'occasion du lancement de la campagne présidentielle au Brésil de Lula, en fait, de sa interview. C'est que moi, je reste très frappée, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle pas de pourparler, on ne parle pas de cessez-le-feu.
Alors, parfois, il y a eu des cessez-le-feu pour évacuer des civils.
En réalité, aujourd'hui, l'essentiel de discussion, c'est les livraisons d'armes lourdes. Et vous avez vu la polémique qu'il y a en Allemagne et le débat qu'il y a parmi les intellectuels entre les pacifistes qui demandent de ne pas livrer des armes, mais d'aller discuter pour mettre fin pour faire un cessez-le-feu, parce que ce sont
les discussions semblent stériles malgré tout.
Elles n'ont pas repris.
Le président Macron a échangé effectivement lors d'un entretien.
Poutine ne peut pas aujourd'hui, il a besoin d'une victoire. Donc par rapport à ce que votre confrère évoquait, effectivement, Demain, il va annoncer, enfin, à un moment donné, il annoncera qu'il a pris Mariupol, parce qu'en fait, Mariupol est pris en dehors de cette,
oui,
usine.
De cette usine.
Et c'est vrai que je partage ce que dit Général Bourab, c'est que dans une guerre, il y a deux choses. Il y a la guerre asymétrique, et où finalement les combattants sont ultra déterminés et posent un volume de problèmes. Le rapport coût-avantage est clairement dans la guerre asymétrique, comme on l'a vu au Vietnam, en Afghanistan. Mais également, on a une. Les soldats qui sont à Mariupol, eux, ils savent que c'est une bataille symbolique avec Poutine. Donc finalement, ils ont un combat quasi direct avec Vladimir Poutine, puisqu'ils veulent absolument que Mariupol résiste et l'autre veut absolument que Mariupol tombe. Ouais. Et donc, on a cette tension. On a aussi un sentiment national ukrainien qui s'est révélé, qui a un formidable moteur, qui a surpris tout le monde, à commencer par les Américains qui, du coup, se mettent à monter en puissance. Et on voit partout cette solidité. Et donc, d'un côté, un sentiment national ukrainien puissant. De l'autre côté, des Russes, un certain nombre de conscrits russes qui doivent se poser la question toujours, qu'est-ce qu'ils sont venus faire dans cette galère. Mmh. Et donc, bon. Mais c'est vrai que Poutine tient son dispositif de communication. Et en sens inverse, les équipes de Zelensky. Parce que qui aurait vu, c'est le Verdun ukrainien. Qui, c'est comme si des soldats à Verdun, dans le fort de Douaumont, auraient pu faire une conférence de presse en vidéoconférence.
C'est pour ça que je voulais partager ça avec vous, parce que je trouvais ça incroyable.
Parce qu'avec un téléphone, aujourd'hui, un téléphone, une connexion...
Avec les systèmes de brouillage, normalement, il n'y a plus rien qui passe, mais ils réussissent à contourner.
Mais c'est en ça que c'est incroyable, je rebondis sur ce que dit Philippe. Poutine tient sa communication, on voit en Russie, tout est canassé, et il y a une communication, entre guillemets, sauvage, libre... de cette conférence de presse, de Bono dans le métro. C'est pas n'importe quoi, en Europe de l'Est. Bono, YouTube...
Bah tiens, on va l'écouter, justement. On l'avait préparé parce qu'on voulait vous le proposer, cette petite parenthèse enchantée. Hein, c'était aujourd'hui dans le... Écoutez. Donc une petite dizaine, plusieurs dizaines d'Ukrainiens qui avaient pu accéder au métro et à ce concert privé, quelque part 30 minutes. C'est le président ukrainien qui avait invité le groupe, et c'est une démarche de solidarité.
Il y a une sorte aussi de... Enfin, je pense que pas de décalage, mais quand même un peu, parce que moi je reste frappée, c'est que... Zelensky est un maître dans l'art de la communication, mais il y a quand même un décalage entre ce que peuvent vivre des pauvres Ukrainiens et l'espèce de mise en scène, et c'est ça qui...
Il fait jouer l'Occident.
Et pourquoi le faire dans le métro, puisqu'a priori...
C'est protégé, c'est l'Occident.
Je laisse juste finir, Frédéric Dabi, vous aviez fini.
Oui, tout à fait, j'avais fini, je vais laisser Patrick parler. Non, alors, quand même, deux points quand même. Les Français soutiennent à une nette majorité la livraison d'armes à l'Ukraine. Et là, peut-être un point de clivage au sein de l'alliance NUP, pour revenir sur notre débat précédent. Par contre, il y a une sorte, non pas d'usure, mais d'incertitude sur la finalité de cette guerre. Et cette logique interne crée elle-même de l'inquiétude.
Patrick Karam.
Oui, vous vous souvenez de la guerre du Crimée et du Donbass. Oui. Les Ukrainiens n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts, mais souvenez-vous, moi j'étais dans toute l'Asie centrale, dans toute l'Europe de l'Est orientale, etc. Et à l'époque, les Ukrainiens renonçaient à l'arme nucléaire. Et à l'époque, on leur avait garanti la sécurité. Et ils se rendent compte qu'ils ont renoncé à l'arme nucléaire, ils n'ont pas la sécurité, ils ont eu la guerre du Donbass, la Crimée qui a basculé. Ils se sont organisés, ils se sont, endurcis. Et là, je crois qu'il y a un sujet pour Poutine. Premier sujet, c'est qu'il a été mal informé. Il avait l'impression qu'il allait rentrer dans un pays conquis, peuple allait le soutenir. Les Russes eux-mêmes, les russophones eux-mêmes, pour qui, soi-disant, il fait la guerre, ceux-là même l'ont lâché. Et j'ai vu la même chose en Tchétchénie, comme Doudaïev y était. Quand les troupes russes sont rentrées, les femmes russes étaient devant en disant « dehors les troupes russes », en Tchétchénie, vous savez, à l'époque de Doudaïev. Deuxième réflexion, ce ne sont pas seulement les combattants qui résistent. Ce ne sont pas seulement ces combattants-là. Et évidemment, avec l'arme, et l'aide américaine, l'aide européenne, la guerre d'information joue son rôle, etc. C'est aussi la population. Les hommes sont restés faire la guerre. Les femmes, on les voit aujourd'hui dans toute l'Europe, y compris en France. Moi, j'ai été frappé, j'ai été sur une île de loisirs. Mais c'est des femmes et des enfants ou des vieillards. Mais les hommes qui sont en âge de combattre, vont combattre. Ça veut dire que, deuxième élément, Poutine doit revoir ses plans. Il ne peut plus considérer qu'il peut occuper l'Ukraine, puisqu'il lui faudrait 2 millions de soldats pour tenir un peuple qui se rebelle. Et troisième élément, il faut qu'on ait en tête, pardon de vous le dire, il faut qu'on ait en tête l'après. Notre ennemi, ce n'est pas la Russie. Poutine n'est pas éternel. Qu'on fasse attention à cette idée que la Russie, à un moment ou à un autre, nous sommes en Europe, c'est notre voisin, on va devoir reconstruire des choses avec la Russie.
Merci Patrick Karam et merci à tous. Merci. C'est déjà fini, c'était un bonheur de vous avoir Europe Soir Weekend et on se retrouve évidemment très bientôt. Tout de suite, c'est Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau.
Absolument Céline, avec la rencontre Paris Saint-Germain 3 que nous allons suivre à partir de 20h45, mais dès 20h avec nos experts, avec Cédric Chasseur, Grégory Schneider, Sacha Beckerman. Nous allons revenir notamment sur la victoire de Nantes en finale de la Coupe de France hier contre Nice, en se posant cette question: est-ce le succès du président Kita ou de l'entraîneur Comboiré? La réponse dans Europe 1 Sport.